Bonjour et bienvenue à vous, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, dans cette émission de dialogue non violent sur les pas de Gandhi et de tous ceux qui ont initié la marche humaine de la non-violence. Dans le dernier épisode, nous avons exploré ce qu'était l'ahimsa, terme hindouiste, désignant la non-violence, et comment cette intention pouvait se traduire dans le quotidien. Nous poursuivons notre chemin auprès de Gandhi dans ses jeunes années. Fort de l'empreinte hindouiste qui a marqué sa jeunesse, Gandhi part à Londres pour faire ses études, en promettant à sa mère qu'il ne mangera pas de viande. Il entre à l'University College de Londres le 4 septembre 1888, à l'âge de 18 ans, dans l'espoir de devenir avocat. S'il tente dans une certaine mesure de s'adapter aux coutumes anglaises, son végétarisme l'amène à rencontrer d'autres végétariens, membres notamment de la société théosophique. Ceux-ci sont passionnés par l'étude des littératures bouddhistes et brahmaniques, et ils permettront ainsi à Gandhi d'étudier attentivement la Bhagavad Gita, qui est un des textes fondateurs de l'hindouisme. Cette étude le marque profondément, notamment à travers l'idée que le désir est source d'agitation de l'esprit et de souffrance. Il développe dès lors un intérêt pour la religion qui ne se limite pas à l'hindouisme mais s'étend également aux autres religions comme le bouddhisme, l'islam et le christianisme, dont il retient entre autres l'incitation à réagir par la non-violence. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui la joue gauche. Le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth le marque de façon indélébile.
Du point de vue du sacrifice, il me semblait que les hindous surpassaient de loin les chrétiens. Il m'était impossible de tenir le christianisme pour une religion parfaite, ou pour la plus grande des religions. Si d'ailleurs je pouvais admettre que le christianisme fût une religion parfaite ou la plus grande de toutes, je n'étais à l'époque pas plus convaincu qu'il en alla autrement de l'hindouisme. Je me livrais aussi à une étude très attentive des livres de Tolstoï, le résumé des évangiles, ce qu'il faut faire, et d'autres œuvres de lui. Elles firent sur moi une profonde impression. Je me rendais au fur et à mesure de plus en plus compte des possibilités infinies de l'amour universel.
Si les traditions religieuses inspirent Gandhi, d'autres hommes, plus contemporains et éloignés pourtant de sa culture, l'ont inspiré tout au long de son existence. Ils lui donneront l'impulsion pour se mettre en route. Léon Tolstoï est un de ces hommes qui ont influencé la pensée de Gandhi. Ce que Gandhi admire le plus dans la vie de Tolstoï, c'est qu'il met en pratique ce qu'il prêche. Pour les deux hommes, la démocratie est un idéal sans valeur comparé à la vérité. Tolstoï a démontré dans son livre que la loi du Christ, « Aime ton prochain comme toi-même », est la loi suprême avec celle de « Si tu n'es pas capable de faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, au moins, ne leur fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. » Gandhi a eu une brève correspondance avec Tolstoï de 1909 à 1910, qui a pris fin avec la mort de ce dernier à l'âge de 81 ans. Les deux hommes ont souvent exprimé leur accord complet, jusque dans les mots utilisés sur la foi, la raison, la religion, la morale, le progrès véritable, l'histoire, etc. Gandhi a donc acquis, au contact de Tolstoï, sa compréhension du caractère vital de la non-violence, la conviction que la loi de l'amour est la loi fondamentale de la vie, comme il l'a exprimé toute sa vie.
Ce n'est pas être non-violent que de se contenter d'aimer ceux qui nous aiment. La non-violence commence à partir de l'instant où l'on aime ceux qui nous haïssent. Je n'ignore rien des difficultés de ce grand commandement d'amour. Mais n'en est-il pas ainsi de toutes les choses grandes et bonnes ? La plus difficile de toutes est d'aimer ses ennemis. Mais si nous voulons vraiment y arriver, la grâce de Dieu viendra nous aider à surmonter les obstacles les plus redoutables. J'ai remarqué que les pires destructions ne font jamais complètement disparaître la vie. Il doit donc exister une loi supérieure à celle de la destruction. Seule cette loi suprême peut donner un sens à notre vie et établir l'harmonie indispensable au fonctionnement des rouages sociaux. Et si ce doit être là notre loi, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elle règle la vie quotidienne. Chaque fois qu'il y a discorde, que vous vous heurtez à des oppositions, efforcez-vous de vaincre l'adversaire par l'amour. Toute ma vie, j'ai eu recours à ce moyen élémentaire pour régler de nombreux problèmes. Cela ne signifie pas que toutes mes difficultés sont résolues. J'ai trouvé tout simplement que cette loi d'amour était plus efficace que la voie de la violence.
Vérité est le mot qui semble définir au mieux la quête de Gandhi. En effet, Gandhi a dédié toute sa vie à la découverte de la vérité ou satya. Il essaye de l'atteindre en apprenant de ses propres erreurs et en pratiquant des expériences sur lui-même. C'est notamment le thème de son livre « Autobiographie ou mes expériences de vérité ». Gandhi établit que la plus importante bataille à remporter est de vaincre ses propres démons, peur et insécurité. Il résuma ses croyances quand il dit d'abord « Dieu est vérité ». Il change ensuite cette déclaration en « la vérité est Dieu ». Ainsi Satya, la vérité, dans la philosophie de Gandhi, est Dieu.
Mais il est une chose qui prit fortement racine en moi, la conviction que la morale est le fondement de tout, et que la vérité est la substance de toute morale. La vérité devint mon seul but. Elle prit de jour en jour une place grandissante et sa signification n'a non plus jamais cessé d'aller s'élargissant pour moi.
Qu'est-ce que la vérité ? La question ne va pas sans difficulté. Mais je l'ai résolu quant à moi en disant que c'est la voix intérieure qui nous parle. Comment se fait-il alors, me demanderez-vous, que des esprits divers conçoivent des vérités diverses et même contraires ? C'est que l'esprit humain doit passer par d'innombrables intermédiaires avant d'élaborer une conclusion, et que son évolution n'est pas la même chez tous. Il s'ensuit qu'il faut observer certaines conditions pour ne plus avoir à dépendre de ces aléas. Si tant de mensonges déferlent actuellement sur notre monde égaré, c'est que chacun revendique les droits d'une conscience éclairée, sans même s'être soumis à la moindre discipline. Avant toute chose, il faut, pour découvrir la vérité, avoir une très grande humilité. Pour pénétrer au cœur de cet océan qu'est la vérité, il faut se résoudre à n'être plus rien. La vie est une aspiration à la perfection, à l'accomplissement de soi. Il ne faut pas abaisser cet idéal à cause de nos faiblesses ou de nos imperfections. Les miennes ne m'échappent nullement, elles me désolent. Chaque jour, je supplie silencieusement la vérité de me venir en aide pour m'en débarrasser. Il est difficile de définir Dieu, mais la définition de la vérité est inscrite dans le cœur de chacun. La vérité, c'est ce que vous croyez être vrai à cet instant précis. Voilà votre Dieu. Si un homme adore cette vérité relative, il est sûr, avec un peu de temps, d'atteindre la vérité absolue, c'est-à-dire Dieu.
À partir de cette conscience, Gandhi nourrira sa détermination et la conviction que les changements sociétaux ne peuvent avoir lieu sans transformation personnelle. Nous verrons la prochaine fois comment Gandhi a pu articuler cette vision de la vérité avec son action dans la société. En attendant ce prochain épisode de nos dialogues non violents, je vous invite à écouter la magnifique voix de Norah Jones dans cette reprise d'une composition de son père Ravi Shankar, à qui elle rend hommage. Je tenais à faire un clin d'œil à ce célèbre musicien et sitariste qui a composé la musique du film Gandhi de Richard Attenborough. Tout de suite, I'm Missing You sur Radio Grand Ciel.